Vous êtes sur RTL.
Asia.fr.
Thomas Soto, on refait le monde jusqu'à 20h sur RTL.
On refait le monde avec ce soir Abnous Chalmani, écrivain. Bonsoir Abnous.
Bonsoir Thomas.
Virginie Leguet, chef adjointe du service politique de Paris Match. Bonsoir Virginie.
Bonsoir.
Avec nous également Patrick Poivre-d'Arvor, journaliste et écrivain. Bonsoir Patrick.
Bonsoir Thomas et bonne année.
Et bonne année à tous. Et Nicolas Domenac, directeur du nouveau magazine littéraire, voilà, et éditorialiste à RTL. Je vais faire un peu d'orthophonie en 2020. Hein. Bonsoir et bienvenue. On va parler donc de la situation en Iran. On évoquait Hassan Nasrallah juste avant la coupure publicitaire. À l'instant, le ministre français des Affaires étrangères dit, Jean-Yves Le Drian, que l'Iran doit renoncer à des représailles, alors que le président Rouhani avertit les États-Unis, ne menacez jamais la nation iranienne, déclare Hassan Rouhani. Je voudrais qu'on vienne un peu sur ce qui s'est passé quand même depuis trois jours avec ce coup de sang, cette décision, peut-être cette décision stratégique. Vous allez me dire ce que vous en pensez de Trump de tuer le général Soleimani.
Alors, je pense que dans toutes les décisions irréfléchies, stupides, sanguines qu'a pu prendre Trump, celle-là est quand même la meilleure. C'est peu dire que je n'ai aucune amitié pour la République islamique d'Iran, mais vraiment pas du tout. Mais là, ce qui était en train de se passer...
On précise que vous êtes iranienne d'origine. Hein.
Voilà. Mais quand même, ce qui s'est passé là, c'est quand remettre dans le contexte, en Iran, au Liban, en Irak, il y avait des manifestations contre les régimes en place, contre la corruption et surtout contre l'influence de l'Iran. Et ce qui était passionnant, c'est que peut-être pour la c'est certainement pour la première fois depuis la révolution iranienne, les gens étaient dans la rue et ne criaient pas « mort à l'Amérique et mort à Israël ». Ils criaient « ni Gaza, ni Liban, je donne ma vie pour l'Iran ». C'est déjà très surprenant. D'autre part, que ce soit au Liban ou en Irak, les gens manifestaient, pas contre les autres communautés, mais contre leur propre chef de communauté. Donc on était dans ce qui n'était jamais arrivé en un siècle d'existence de l'Irak et de Liban. Donc on est dans une situation totalement inédite qui pouvait espérer un changement. C'est-à-dire que là, les mollahs avaient peur, ils commençaient à vaciller. D'où la force de la répression en Iran qui ne concernait pas juste les Iraniens, mais aussi les Libanais et les Irakiens. Et sur ce, alors pas un seul drapeau américain n'avait été brûlé depuis septembre avec toutes ces manifestations qui embrasaient toute la région. Trump arrive et, on le sait, maintenant qu'il y avait plusieurs décisions, plusieurs schémas que le Pentagone lui avait proposés, et il y avait celle-là, là, tuer Soleimani, qui traînait un peu. Ah ben évidemment, c'était la seule à pas choisir, et je choisis celle-là. Pour vous donner une idée de qui était Qassem Soleimani, quand moi j'étais petite en Iran, j'étais à l'école. On chantait à la gloire, donc pendant la guerre Iran-Irak, j'étais à l'école, à la gloire de Khomeini, mais aussi à la gloire de Soleimani. Donc c'est peu dire que c'est une figure dès l'enfance qu'on nous apprend, parce que c'est un général. Donc c'est quand même extrêmement un personnage extrêmement important, et ce n'est pas un terroriste.
C'est très populaire, hein, parce qu'on voit extrêmement populaire,
extrêmement populaire. C'est grâce à lui que la guerre Iran-Irak n'a pas été ni gagnée ni perdue, mais en tout cas l'Iran n'a pas perdu de territoire. Et là, on se retrouve avec des manifestations, retour comme à l'ancienne, avec des manifestations anti-américaines. C'est un désastre.
Patrick ?
Alors, on voit en effet toutes ces manifestations donc en hommage pour les obsèques. On ne voit pas, en revanche, et on n'a jamais vu depuis maintenant plusieurs mois, toutes les manifestations anti-régime qui existent. Alors, il y a les manifestations individuelles que vous connaissez bien, où on a vu des femmes prendre le pouvoir, montrer qu'elles pouvaient se promener tranquillement, non voilées, etc. Et puis, il y a d'autres qui sont beaucoup plus répressives et qui, alors là, sont systématiquement censurées. On ne le voit pas. Moi, je pense, comme Abnous, en effet, que le choix... C'est là un choix qui est quand même capital, crucial. Il va très loin. C'est le choix de tester. Alors, pour l'instant, il teste. Et au fond, peut-être que derrière ça, son cerveau, qu'on qualifie parfois de reptilien, il y a juste cette idée qu'il vaut peut-être mieux faire la guerre maintenant à l'Iran que dans 5 ans, quand l'Iran aura l'arme nucléaire. Donc ça, c'est un choix majeur. Et nous, on est...
Il n'utilisera jamais l'Iran comme n'importe quel pays. Si un jour il arrive jusqu'au nucléaire, ce qui n'est pas dit, c'est n'utilisera jamais le nucléaire. Si un pays se met à utiliser son arme nucléaire, c'est la fin du monde, quelque part, avec le jeu des alliances. Je ne pense pas du tout qu'il est en train d'anticiper ça, Trump. Je pense que ça, c'est déjà lui donner trop de crédit à son intelligence.
Nicolas Domenac.
Écoutez, pour l'instant, c'est vrai que le bilan il est particulièrement négatif, puisque non seulement le pouvoir, dans sa version la plus radicale, le pouvoir iranien, a refait une unité autour de lui qui était contestée très, très gravement. C'est le premier point. Deuxième point, la lutte contre Daesh est affaiblie et paralysée totalement sur place, puisque la coalition, maintenant, le mot d'ordre est « surveillez-vous vous-même » plutôt que « agissez contre Daesh ». Troisième point, l'Irak. L'Irak devait être... pour participer de la lutte contre l'État islamique, devait être un État fort, constitué vraiment de manière équilibrée entre l'Iran et les États-Unis. Donc, ils viennent de voter une résolution pour exclure l'Amérique. Donc, pour l'instant, le bilan est totalement négatif. Alors, sauf peut-être pour Trump lui-même, nous verrons.
C'est peut-être de la politique intérieure.
Voilà, il avait Trump. Accusé précédemment Barack Obama, il y a quelques années avant, de vouloir faire la guerre
C'était en 2011,
oui. Oui, pour montrer qu'il était un homme dur et non pas faible. On peut lui retourner ses propres accusations.
Et sachant, pardon, que Trump est le premier à avoir promis dans les élections qu'il retirait les soldats américains du Moyen-Orient. Donc là, c'est totalement un paradoxe. C'est que s'il repart en guerre, quand même à l'encontre de sa promesse de campagne, qui est de ramener tous les GI à la maison.
Virginie Le Guay.
Oui, moi j'entends toutes les explications, j'entends les mots qui sont utilisés en Occident depuis quelques jours pour parler de la rhétorique trumpienne qui n'aurait plus de limites. Et à chaque fois, moi je m'interroge sur l'effet que ça a sur l'électorat de Trump, et je vois que c'est un effet très galvanisateur. Et Trump, il prépare sa réélection, et finalement, est-ce que cette échéance-là ne prime pas à tout? Est-ce qu'il ne prend pas des risques que nous, on pourrait qualifier d'insensés au seul nom de parler directement à son électorat? On s'aperçoit souvent, depuis qu'il est au pouvoir, qu'il parle essentiellement à son électorat, et que son électorat, non seulement
on rappelle
ne l'a pas
que
lâché,
l'élection présidentielle, c'est en novembre. Hein, là-bas.
Exactement, mais se solidifie extrêmement fortement. Et j'entendais, là, il y a quelques heures, un extrait d'un de ses derniers déplacements devant des évangélistes, et je vois bien que c'est cette Amérique-là qu'il essaye toujours d'entraîner derrière lui, et qui est quand même très solidement arrimée à lui, et c'est toujours avec lui la question à se poser, à qui il s'adresse. Je ne suis pas sûre qu'il s'adresse au monde, il s'adresse à ceux qui ont voté pour lui et qui pourraient revoter pour lui dans quelques semaines.
C'est vrai que le fait qu'il ait mentionné, alors que tout le monde a été très surpris de voir que Trump avait un bout de culture, qu'effectivement, ce qui fait la complexité de la relation entre l'Iran et les États-Unis vient de ce traumatisme de la prise d'otages à l'ambassade
en 79,
en 79 jusqu'à 80, qui a quand même duré, rappelons-le, 444 jours. C'est énorme, l'humiliation totale des Américains. Et le fait que Trump reprenne ces événements historiques en parlant de 52 sites culturels pour référence aux 52 qui seraient prêts à bombarder, effectivement, là, il s'adresse, j'allais dire, à l'inconscient collectif américain,
à l'histoire où ils se sont jamais remis de ça.
Il ne faut pas oublier, justement, ça nous ramène au sujet précédent que vous évoquiez, Virginie, c'est-à-dire que 79, moi je me souviens, j'étais là-bas, c'était terrible, le traumatisme pour l'Amérique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jimmy Carter a été battu dans la foulée.
Exactement.
Donc, c'est exactement. Évidemment, un calcul de politique intérieure qui a son importance. Mais la déflagration, elle peut être majeure.
C'est vrai.
Pour l'instant, on est sur vraiment, on danse sur des bombes.
Vous voyez un risque de guerre ou pas, Nicolas Domenac ?
En tout cas, j'ai écouté tout à l'heure le ministre des Affaires étrangères, vous évoquiez sa situation, Jean-Yves Le Drian. J'ai été frappé que lui, qui est plutôt économe en général de ses propos, il n'a pas dit une fois la situation est grave, il l'a dit au moins six fois, et il a dit elle est très grave, elle est excessivement grave. Je veux dire, c'est que vraiment, elle est préoccupante, parce que on sait bien que dans ce genre de situation, on ne maîtrise pas toujours, c'est un euphémisme, l'enchaînement.
Mais c'est pas le grand bluff général, c'est pas le grand bluff à chaque fois, je fais une déclaration.
C'est ce qui est arrivé jusqu'à maintenant. C'est vrai que jusqu'à maintenant, c'était ça. Jusqu'à maintenant,
je vais encore plus haut.
Sauf que là, les Iraniens ont perdu la face.
Oui, et ils ont perdu Soleimani. Là, c'est pas perdre un vague mercenaire qui traînait par là, et on savait qu'il faisait ça l'affaire de l'État. C'était un général connu, respecté. Elle est là, la nuance.
Mais est-ce que la première réaction de Trump n'a pas été un tweet avec le drapeau américain?
Si, absolument. Voilà. Si, absolument.
Voilà.
Sans aucun commentaire. Voilà, dans les minutes qui ont suivi. On fait une courte pause et on continue à parler de la situation là-bas et du rôle que peut-être doit ou peut jouer la France, notamment.
Thomas Soto, on refait le monde jusqu'à 20h sur RTL. Thomas Soto sur RTL, on refait le monde jusqu'à 20h.
On refait le monde avec ce soir Virginie Le Guet, Nicolas Domenac, Patrick Poivre d'Arvor et Abnous Selmani. On parle de la situation en Iran, des conséquences en Irak, des conséquences avec les États-Unis et aussi peut-être des conséquences avec la France, avec le reste du monde. Quelle doit être et quelle peut être la position française, Nicolas Domenac?
D'abord, dans les conséquences, je peux vous dire qu'au niveau du pouvoir, on se préoccupe du pétrole. D'abord, première conséquence, est-ce que les prix du pétrole vont faire la super culbute, ce qui tomberait mal dans les circonstances actuelles.
Alors, ensuite, si les raffineries sont bloquées, par ailleurs.
Alors on n'en est pas là, quand même. Je viens que 2020 commence pas très bien, mais quand même.
En tout cas, la CGT aimerait bien qu'elle soit bloquée. Sinon, il y a une action diplomatique d'envergure qui est entreprise là pour l'instant. Mais je vous rappelle que les efforts qui avaient été tenté précédemment, qu'on avait salué d'ailleurs parce qu'ils nous semblaient originaux, et n'avaient servi à rien, et même à moins que rien. Donc est-ce que cette fois-ci l'action conjuguée, non seulement des Européens mais des Russes et des Chinois et j'en oublie pourrait parvenir à ébranler Trump? On peut s'interroger, je crois qu'il s'en fiche complètement.
Et pour ébranler Rouhani et l'Iran,
parce
que...
Je crains qu'il s'en fiche complètement,
non,
moi
mais
aussi.
Après, Rouhani, bien sûr. Faut prendre très au sérieux, et là, je puis me permettre, mon côté iranien va ressortir. Mais quand il dit ne menaçait jamais la nation iranienne, j'ai rappelons-nous comment après la révolution iranienne, forcément, qui avait été fait avec l'aide, les islamistes et les communistes réunis. Après, forcément, comme toute révolution, le pouvoir était un peu chancelant parce que les communistes se rendaient compte qu'ils venaient de se faire prendre le pouvoir, ce qui était prévisible, mais passons, par les islamistes. Et il commençait à avoir un petit flottement. Et là, Saddam Hussein envahit l'Iran. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles, 40 ans après, on a encore la République islamique. Là, si n'importe, même les Iraniens qui sont contre le régime des Mollahs, n'importe qui, si Trump attaque, mais vraiment ne serait-ce qu'une pierre de Persépolis, de Tabriz ou d'Isfahan, c'est la guerre totale. Et le Vietnam, c'est le traumatisme américain jusqu'à aujourd'hui, et ben ça sera fini, il y aura un nouveau traumatisme.
Mais on joue à se faire peur avec les mots, pas la guerre totale, est-ce que c'est vrai?
La guerre totale, ça veut dire que l'Iran est capable, l'Iran est une vraie armée.
C'est possible.
L'Iran est une vraie armée, pas comme l'Irak.
Il y a une vraie armée, on s'en est bien rendu compte, la guerre Iran-Irak était terrible, il y avait un nombre de...
Il s'est passé quelque chose depuis la guerre Iran-Irak quand même.
Ils se sont perfectionnés.
Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que pour l'instant, les Iraniens qui étaient en train de fabriquer du nucléaire avait rétrocédé parce qu'il y a eu ce fameux accord de 2015 qui était respecté jusqu'à ce que Donald Trump décide de ne plus le respecter et que donc en ce moment ils sont en train de réactiver leurs affaires, en tout cas ils se débarrassent de toutes les préventions qu'ils avaient, donc ils peuvent se retrouver à la tête de l'armée nucléaire, de l'arme nucléaire. Et je vous rappelle quand même qu'à 1000 km de là, il y a un autre peuple qui a l'arme nucléaire qui s'appelle l'Israël. Donc tout ceci peut exploser. C'est pas grave. Il faut ajouter aussi dans les facteurs d'arrivée de l'islamisme, en tout cas de la République islamiste, le fait que l'ayatollah Khomeini a été pendant très longtemps notre hôte. Je veux dire complaisamment, on a été on ne peut plus sympathique avec lui.
Suisse et la France.
Voilà, en le recevant à Naufle-le-Château et ensuite en lui permettant de retourner à Téhéran. Est-ce que vous croyez qu'ils vous seraient reconnaissants? Pas du tout, ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas et ils se fichent assez carrément de notre position. Très franchement, ils sont amicaux comme ça, mais quand Macron a mouillé la chemise à Biarritz pour faire venir, ça les a pas intéressés.
Mais parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas de conséquences, ils savent que ça ne marchera pas, ils voient bien que c'est trop
difficile. En gros, ils ne nous prennent pas au sérieux.
Et pour une seule raison, c'est qu'ils n'ont pas été capables.
Des toutes petites personnes et des toutes petites puissances et qui nous regardent avec beaucoup de condescendance. Moi, je me demande si chacun n'est pas en train de jouer à se faire peur, quitte à effectivement un jour aller trop loin. Mais presque involontairement, mais jusqu'à présent je ne sais pas si l'Iran veut vraiment aller jusque-là. Je crois qu'ils sont au bord, c'est un jeu.
Ouais, sauf que ce pouvoir est à l'agonie économiquement et qu'ils ont besoin de refaire l'unité autour d'eux et que c'est le meilleur moyen qu'ils auraient offert.
Est-ce qu'ils le feraient à ce prix-là?
Pour rester au pouvoir.
Comme toutes les dictatures, à chaque fois dans ce genre de situation, on recourt au sentiment national pour se ressourcer.
Et on va terminer avec un tweet de Donald Trump, ça fait longtemps, 15h52 cet après-midi heure française, l'Iran n'aura jamais d'armes nucléaires. Ouais. Voilà. C'est péremptoire, on ne sait pas si c'est vrai. Et en tout cas,
il l'a écrit en majuscule ou pas?
Non, alors celui-là n'est pas en majuscule. C'est vrai que
c'est peut-être moins grave.
Ce qui traduit un peu son humeur parfois. Merci. Dans un instant, on va parler de la réforme des retraites. Autre genre de conflit.
Thomas Otto, on refait le monde dans RTL Soir.
Jusqu'à 20h, on refait le monde dans RTL Soir.
Thomas Otto.
On refait le monde et on n'a pas fini de refaire la, dis donc, Virginie Le Guay, la réforme des retraites avec donc Virginie Le Guay qui bavasse déjà. Abnous Chalmani, Patrick Poivre d'Arvor et Nicolas Domenac. Alors, 33e jour de grève. On ne va pas résumer les épisodes précédents parce que c'est impossible. On va déjà essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui peut se passer demain. En écoutant peut-être Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, il était ce matin l'invité de nos confrères de France Inter et il a répondu à la main tendue par Laurent Berger de la CFDT hier soir sur France 2. Berger qui disait on n'a qu'à sortir la question de l'âge pivot, de la réforme des retraites, on s'en occupe à côté, on fait une conférence pour voir comment on fait des économies, mais on sépare bien les deux choses. Voici ce qu'a répondu Bruno Le Maire.
Ce qui me frappe dans cette rentrée, c'est que jamais le compromis ne m'a paru aussi proche.
Ah.
Jamais la possibilité de parvenir à un accord ne m'a semblé autant à portée de main.
Donc on avait l'impression qu'il était plutôt favorable à tout ça. Il a même dit le mot « banco » Bruno Le Maire. Sauf qu'il paraît que ça a mis très mauvais poil le Premier ministre Édouard Philippe, qui, je vous le rappelle, sera demain matin à 7h40 chez Alba Ventura sur RTL. Donc on en est où ?
Emmanuel Macron avait annoncé justement...
ça, c'est la vraie question
décembre.
Dégueulasse. Hein.
Non, mais il avait annoncé il demandait à Édouard Philippe qu'il y ait un compromis rapide. Bon, sur le compromis, on l'entend bien dans la bouche de Bruno Le Maire. Ils en ont très envie. Moi, je suis sûr que du côté de l'UNSA, de la CFDT et de la CFTC, ça commence à balancer. Peut-être que ça va être une question de sémantique sur le mot âge pivot, âge d'équilibre, âge je ne sais quoi. Mmh. Mais il est fort possible que ces trois syndicats se détachent du bloc CGT-FO qui, lui, ne va pas bouger. Et donc, que progressivement, on aille vers la fin du conflit.
Mmh. C'est un peu ce qu'on aurait pu dire avant les vacances. Hein,
c'est ce que je disais. Si vous ressortez quelques-unes de mes interventions,
c'est tout à fait le problème. Depuis 34 jours, on est dans un jour sans fin. Tous les jours, c'est exactement, on répète les mêmes choses. Le gouvernement répète. Il y en a un qui fait une petite avancée. Deux heures après, il est contredit en disant « Ah non, nous ne sommes pas prêts parce que le Premier ministre n'est pas d'accord, que le maire veut avancer, mais machin, non. » Enfin, ça devient... Enfin, franchement, ça, je ne sais pas, ça serait intéressant d'avoir un journaliste étranger, nous voir de l'extérieur, ça devient un peu gaguesque.
Non, mais dans tous les pays, Abdou, c'est oui, pas mais facile aussi long de sortir
avec
d'une
le pays
crise.
Bloqué et, non, c'est jamais facile.
Et,
mais est-ce qu'on est obligé
la tête haute.
Mais est-ce qu'on
Laurent
est obligé
Berger
de bloquer
ne peut pas dire je suis le briseur de grève. Il peut dire oui, pendant 33 jours, j'ai jusqu'au bout, j'ai cru et j'ai obtenu ceci.
Voilà. Et dans la série Ça s'arrange, l'UNSA ferroviaire, je mets des guillemets, oui. Ça s'arrange, a annoncé mettre fin à sa trêve dans la grève de la SNCF. Donc ça va renforcer encore la grève à la SNCF.
Bon, voilà. Donc
c'est quoi la suite de l'histoire, Nicolas Domenac ? Je me remets à votre expérience.
Mais oui, ça, par principe, vous faites bien. Mais je regrette que le gouvernement et le pouvoir ne fassent pas de même. Parce que depuis le début, il est clair que l'acte 2 du quinquennat devait procéder du dialogue social. Et donc on dialogue avec les gens qui veulent dialoguer, c'est-à-dire avec les syndicats réformistes. Or qu'est-ce qu'on a fait ? On a claqué la tête, pour ne pas dire autre chose, de la CFDT et de Laurent Berger, pour une troisième fois. Parce que je vous rappelle que lorsqu'il a tendu la main dans les gilets jaunes, on lui a mordu. Mmh. Ensuite, il y a eu l'assurance chômage, pareil, on l'a piétiné, et là, alors que tout était possible à partir du moment où on trouvait une solution pour écarter l'âge pivot, l'entente était quasiment faite. Alors, en laissant des amertumes, parce que vous avez des syndicats qui n'en veulent pas. Mais je veux dire, la voie de sortie, elle était écrite. Donc la question est de savoir pourquoi on ne l'a pas faite quand on pouvait la faire très, je veux dire, relativement simplement, sans que le conflit pèse déjà, parce que c'est dur quand même, on oublie toujours à quel point les gens qui font grève, ils ne font pas grève de gaieté de cœur, forcément, ce n'est pas des vacances. Ça leur coûte de l'argent, ça leur coûte de l'espérance, ça leur coûte des amis. Donc ils veulent quand même des résultats chaque fois plus élevés, puisque c'est du plus délicat, plus lourd. Donc la sortie, elle coûtera plus cher, mais elle se fera avec les syndicats réformistes.
Alors il y en a un qui a une solution à proposer, et il la propose à Édouard Philippe directement, c'est Jean-Luc Mélenchon.
Je lui ai dit céder et partez, donc il va jouer son rôle de fusible. Monsieur Macron va finir par lâcher prise, j'espère, ou alors ça va être la pagaille dans ce pays pendant combien de temps. Et puis l'autre, voilà quoi, il faudra qu'il assume. Normalement, ça se passe comme ça. Le Premier ministre est le fusible du président.
Voilà, l'autre, c'est Emmanuel Macron, puéril et têtu, a dit Jean-Luc Mélenchon. Virginie Le Guay, est-ce que vous pensez que l'issue, ça peut être Édouard Philippe qui sortirait ?
Ouais,
on n'a pas l'air d'en être là du tout. Là.
Je ne crois pas du tout, d'abord, parce que je pense qu'elle aura beaucoup de mal à le remplacer et qu'Édouard Philippe et Emmanuel Macron s'entendent bien, quoi qu'on en pense et quoi qu'on en dise. Moi, je m'interroge sur la sortie de ce conflit et je pense qu'on va se diriger vers une victoire à la Pyrrhus. Personne n'aura gagné, personne n'aura perdu. L'âge pivot sera maintenu, mais il sera glissant en fonction des professions. Il y aura des exceptions, il y aura des aménagements, il y aura des choses qui seront concédées. Laurent Berger pourra dire l'âge pivot existe encore, même si de fait, il n'existera pas pour tout le monde. Et finalement, ça va le faire comme ça. Et je m'interroge sur le coût réel de cette réforme qui, de million en million lâché aux uns et aux autres, va finir par coûter extrêmement cher, et sur finalement le visage définitif d'une réforme qui sera globalement vidée de sa substance.
Alors ça, pour vous rejoignez un sondage du jour, Elab, 6 Français sur 10 estiment que les concessions accordées à certaines professions dénaturent le projet initial.
Oui, ah oui. Certes, on en
projet dont ils ne veulent pas par ailleurs.
Oui, voilà. On en arrivera à un régime à points, mais les exceptions seront tellement nombreuses, ouais. et les aménagements seront parfois, pas toujours d'ailleurs reconnus tout de suite, mais seront si fréquents que je ne sais pas qui s'y retrouvera. Et moi, je m'interroge comme Nicolas Domenac sur l'amertume qui va subsister chez les Français qui, eux, n'auront rien eu à négocier parce qu'ils ne font pas partie d'une profession particulière et qui se retrouveront dans le pot commun, si je puis dire, qui sera le plus mal peut-être
Virginie,
traité.
Puisque tout à l'heure, vous parlez de politique intérieure s'agissant de Donald Trump, parlons aussi un doigt de politique intérieure.
Vous avez raison,
et là,
Patrick, ça compte beaucoup.
De ce point de vue, Emmanuel Macron est en train de souder toute la base, donc sa base d'abord, qu'il avait déjà, mais la base électorale de la droite.
Oui, oui.
Donc il apparaît, même s'il y a des concessions, il y en aura peut-être davantage, il apparaîtra quand même comme le réformiste, le type qui a fait ce qu'il a dit.
Et en même temps, Christian Jacob demande, le patron de LR demande le retrait de la réforme, alors que la droite est pour la retraite à 65 ans.
Ils sont bien obligés de dire quelque chose, mais la réalité, mais c'est pour que tout change, il faut que rien ne change. Et on se retrouve encore dans une bonne vieille politique à l'ancienne. La réforme, ça sera une fausse réforme, avec plein d'exceptions.
Ils sont obligés quand même d'en sortir, justement, pour ce bloc électoral de droite qui est devenu le sien maintenant, puisqu'il a perdu la gauche et qu'il s'en fait une raison.
Il ne la retrouvera pas.
Quelle il faut gauche. Qu'il garde la réforme à point, malgré tout, et la suppression des régimes spéciaux que cherchent les Français, que veulent les Français.
Mais ça va être une réforme de mots, pour ne pas dire de belles expressions pour certains.
Mais ça fait quand même 2 ans et quelques que temps perdu.
Deux ans de concertation.
Vous posez toujours la même question depuis 34 jours, mais comment on en sort quand on arrive à un conflit aussi long? C'est peut-être plus c'est long, plus c'est compliqué d'en sortir, non?
Ça va être dur aussi.
Plus ça laisse des traces dans l'opinion publique.
Ah oui, oui, puis ça va être dur aussi pour la CGT aussi. La CGT qui va être de plus en plus enfermée, toute seule. Et il faut s'en sortir peut-être grâce aux fonctionnaires. La CGT, ça va être très très dur. C'est un vrai problème que Martinez a pour l'instant. Parce qu'on voit bien que sa base, il ne la tient pas complètement. Et qu'elle est prête à se radicaliser encore davantage.
Mais il la tient que si lui-même est très ferme.
Ah oui, uniquement.
Et je pense que c'est la seule stratégie qu'il a, lui-même, de s'imposer encore auprès des siens. S'il lâcherait, ne serait-ce qu'un temps soit peu, sa base qui est déjà extrêmement... Elle est déjà extrêmement effervescente, pour ne pas dire beaucoup plus radicale que lui encore. Il faut qu'il ait cette attitude-là. Et il pourra toujours dire, même si la réforme passe et même si le système à points un jour voit le jour, moi j'ai été le seul, mais j'ai été jusqu'au bout.
Voilà. Abnous, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Je crois que vous en avez marre de la réforme des retraites et qu'on en parle. J'ai l'impression que c'est pas fini. En tout cas, c'est fini pour ce soir. Rassurez-vous.
On est obligé de répéter les mêmes choses, puisque effectivement, il n'y a pas d'éléments nouveaux. C'est très fatigant. C'est très fatigant.
Rassurez-vous, dans un instant, on passe à autre chose. RTL Soir et on refait le monde continu.
RTL Soir, on refait le monde.
Thomas Soto.
Économisons-la.
Thomas Soto, on refait le monde jusqu'à 20h sur RTL.
On refait le monde avec Patrick Pauvre d'abord, qui continue à parler retraites avec Abnous Selmani. Virginie Le Guay est avec nous également. On va venir par supprimer la pub pour entendre tout ce que vous dites pendant la pub. Nicolas Domenac également est avec nous. Demain, nous serons le 7 janvier. Et je voudrais citer 12 noms. Cabu, Wolinski, Charb, Tignous, Honoré, Bernard Maris, Ahmed Merabé, Elsa Kayat, Mustapha Ourad, Franck Brinsolaro, Michel Renaud et Frédéric Boisseau. Toutes les victimes de Charlie Hebdo. Il y aura eu le lendemain, Clarissa Jean-Philippe, et puis les 4 victimes de l'hypercachère le 9 janvier, Philippe Bram, Johan Cohen, Yoav Attab et François-Michel Saada. Tout à l'heure, on parlait de ce drame avec Michel Catalano. C'est l'imprimeur de Dammartin Angouël. C'est chez lui que les Kouachi se sont réfugiés avant l'assaut final. Et il nous racontait ce que représentait pour lui cette date du 7 janvier.
Cinq ans après, arrivé à cette date anniversaire, chaque année, je me dis au début décembre, quand je me sens un peu mieux, je me dis, cette année, ça va le faire. Puis en fait, dès qu'on approche de la date anniversaire, c'est physique. C'est-à-dire, je me sens moins bien, je suis fatigué, je suis épuisé, je dors mal. En fait, tout revient. Et en fait, au début, c'était vraiment des cauchemars, dans le sens où j'avais sans cesse des images qui me revenaient. Aujourd'hui, je me réveille en ayant... Il n'y a pas que leur visage, il y a tout ce qui s'est passé un petit peu. Et en fait, je suis hypersensible dans ces périodes-là.
Voilà, Charlie Hebdo, ça a été un drame épouvantable, évidemment. Ça a été aussi un esprit. Tout le monde était Charlie, ou presque, à ce moment-là. En tout cas, beaucoup le disaient. Qui se sent encore Charlie, 5 ans après ?
Moi, totalement. Mais Abdos. Moi, je ne suis pas d'accord. Tout le monde était Charlie. C'est-à-dire que le 11 janvier, c'était vraiment tout frais.
La et grande ça a manif.
Été... Cette grande manif après
d'État.
Charlie, ça a été tellement... Parce que, après, les gens étaient surtout, j'allais dire, bêtement cabus. C'est que toute cette génération et tout avait été élevée avec les dessins de Cabu dans le Club Dorothée. On était quand même tout à fait attachés à ça. Mais très vite, dès l'annonce de la manifestation pour le 11 janvier, des voix disaient non, on ne marche pas contre les islamistes, on marche contre le fascisme, on marche contre les différences qui nous tuent. Enfin, déjà, ils commençaient à voir.
On ne les entendait pas beaucoup, ces voix.
On les entendait parce que dès le lendemain, il y a eu la fameuse interview d'Emmanuel Todd à ce magazine japonais où il expliquait que ces manifestants n'étaient rien d'autre que des catholiques zombies. C'était quand même assez incal. Et à ce moment-là, une brèche a été ouverte qui n'a fait que s'accentuer. Mais moi, je pense que oui, c'est très difficile de garder l'esprit Charlie. Moi, je pense qu'il n'y avait plus d'esprit Charlie le 12, qu'on a complètement oublié ce que ça voulait dire, la liberté d'expression, que c'était criminel de tuer des caricaturistes ou de qui que ce soit, et que ça ne va pas mieux. Enfin, là, moi, je suis très triste.
Oui, parce que lors de cette fameuse manifestation, j'y étais, c'est très rare de participer à une manifestation quand on est journaliste, parce qu'on je me souviens qu'on applaudissait la police. Oui. Il y avait des gens qui embrassaient la police.
Oui, aujourd'hui, vous voyez
Renaud,
ça,
on a fait une chanson. Bon.
Donc ça a beaucoup changé, si vous voulez parler de l'esprit Charlot.
Charlie.
Numéro 2, bon, les ventes, je ne sais pas ce que ça donne aujourd'hui, mais je crois qu'ils sont revenus pratiquement
moins pire qu'avant. Voilà. C'était moins qu'avant.
Moins qu'avant. Donc on voit que l'esprit, d'une certaine façon, est un peu parti.
C'est ça.
Et en même temps, ces personnages qui étaient des amis pour un grand nombre d'entre eux, Wolinski, vous le citiez, Cabu, Bernard Maris, c'était un type formidable. Bon, ces gens-là sont dans nos mémoires quand même. Il faut pas les oublier, puis il faut pas oublier non plus les survivants, les Ries, les Philippe Lançon et tous ceux qui vivent avec toutes ces images dans la tête en permanence depuis 5 ans.
Et aujourd'hui, Marc Trévidic, ancien juge antiterroriste, dit l'État manque de courage face à la radicalisation.
Totalement.
Non, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a un numéro spécial là, de Charlie cette semaine avec un article très intéressant de Richard Malka, l'avocat de Charlie, qui dit que jamais les lois n'ont été aussi fortes pour défendre la liberté d'expression et en même temps jamais les tentations, les tentatives pour étouffer cette même liberté venant des groupes, venant de groupes de pression, de lobbies, d'individus, et ne se heurtant pas, si j'ose dire, au courage d'un certain nombre au président du qui sont lâches, etc., et font que, eh bien, il y a des interdictions, des limitations à la liberté d'expression qu'incarnait l'esprit Charlie. Ça, c'est le premier point. Le second point qui me frappe beaucoup, c'est que, au fond, les fractures qui étaient préexistantes, eh bien, ont éclaté ces dernières années. J'en prendrai qu'une, mais qui est la plus manifeste, mais il y en a d'autres, au sein de la gauche. Au sein de la gauche, entre une gauche anti-Charlie, dire qui croit qu'il faut surtout pas attaquer les musulmans parce que au fond les musulmans, c'est pas, il faut pas les confondre avec les islamistes, ce qui va de soi, mais toute critique des musulmans reviendrait à attaquer les musulmans. Donc ça, c'est la tendance Plenel qui dit que et qui s'oppose à une tendance disant ben il faut demander des comptes aux musulmans pour qu'ils prennent leur distance, qui se réorganisent, qui s'interrogent, fassent leur examen de conscience, mais aussi comme nous tous, d'ailleurs, chaque fois que nous sommes confrontés à ça. Mais bon, c'est un exemple. Mais il y a d'autres fractures comme ça qui sont apparues, je veux dire, depuis ce moment-là.
C'était un révélateur et un accélérateur de fractures, en quelque sorte. Vous citiez Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo, qui dans le Causeur du mois de janvier dit, et pour aller dans le sens de ce que vous disiez, la gauche a choisi l'islam contre les musulmans.
Exactement.
Virginie Le Guay, 5 ans après, pour vous ?
Oui, alors 5 ans après, pour moi, je ne saurais conseiller à tout le monde de lire le livre de Philippe Lançon, justement, Le Lambeau, si on veut se rendre compte de ce que c'est de l'intérieur par quelqu'un qui l'a vécu.
Lui a pris des balles des Kouachis, notamment dans la mâchoire.
C'est un livre absolument magnifique qu'il faut vraiment lire. Et après tout, il n'y a pas beaucoup d'autres mots à prononcer en dehors de ça. Et je voulais aussi attirer l'attention sur le numéro de Charlie Hebdo de demain, dont on parlait tout à l'heure Nicolas. La une, c'est. Je l'ai là sous les yeux. La une, c'est un smartphone géant qui affiche les logos des grands réseaux sociaux, écrase la langue et les bras d'un dessinateur avec ce titre, nouvelle censure, nouvelle dictature. Et je vois que ce journal n'arrête jamais, ne baisse pas les bras. Et d'ailleurs, les proches de ceux qui ont été tués témoignent dans ce numéro-là. Donc si là aussi, il y a un geste à faire pour se souvenir de Charlie, pour être Charlie, ce serait peut-être d'acheter demain le numéro.
Voilà, et puis on va écouter quelques notes de cette chanson de Renaud que vous évoquiez. J'ai embrassé.
Alors je l'ai approché et j'ai embrassé un flic. J'ai embrassé un flic entre nation et république. J'ai embrassé un flic, ça change des coups de fric. J'aurais pas cru, il y a 30 ans, qu'au lieu de leur balancer des pavés à tour de bras, j'en serrerai un entre moi. Car je me suis...
Allez-y Virginie, je crois que vous voulez ajouter quelque chose.
Je voulais juste rappeler que le procès se tiendra du 14 mai au 10 juillet et que... Tous ceux qui auront à cœur d'essayer de comprendre pourront le suivre, évidemment.
Procès de Charlie Hebdo et des attentats qui ont suivi, y compris l'hypercachère. Merci à vous. On va passer tout de suite à RTL Déjà Demain avec vous, Catherine Boulay. Que nous conseillez-vous de lire dans la presse de ce mardi ?
Le portrait en quatrième de couverture de Libération. Alors, je préfère prévenir, c'est pas pour les puristes de la langue française. C'est le chanteur qui chante ça.
Donne-moi ton cœur,
Patrick, qui est amoureux des mots, va nous quitter, je crois. Faites attention.
Moi, j'aime beaucoup cette chanson, je dois le reconnaître. Beaucoup,
vous le connaissez, Camaro, alias Cyril Camar, Patrick.
Oui, grâce à vous. Oui.
Voilà. Alors, je vais vous le faire connaître encore mieux. C'est l'incroyable parcours d'un bad boy de 39 ans né à Beyrouth qui nous a raconté dans Libération. Il est passé par le Canada et il est devenu bourgeois à Paris. Une success story à l'américaine, mais qui a démarré dans le bruit des explosions au Liban. Camaro la raconte bien d'ailleurs, cette sensation de funambule qu'il a côtoyé la mort en permanence, de sa tentation paranoïaque et du flirt avec la violence. Pour fuir ça, ses parents s'installent donc au Canada. Il a 10 ans, Camaro, mais là-bas, il devient le fric de service. Vous savez, l'abruti un peu trop ravi de ce qu'il voit autour de lui. Et c'est en se faisant passer pour français, langue qu'il a apprise à l'école, qu'il parvient à s'intégrer. 5 ans plus tard, il entre dans le showbiz, décolle en 2004 avec encore du franglais, un album intitulé « La Good Life ». C'est la revanche du fric d'un ex-freak. Alors, il ouvre au Liban et outre-Atlantique des boîtes de pub, une société de jouets, des restaurants, des boîtes de nuit. Et puis, 2010, nouveau virage, il arrive à Paris. L'ancien collectionneur de bagnoles se pique alors d'œuvres d'art. Au bras de sa femme, consultante dans le luxe, il se montre sur les réseaux sociaux, hashtag power couple, couple de pouvoir, parvenu, nouveau riche ou modèle de réussite, chacun choisira. Le portrait s'appelle The Bling à Boss. Il est signé Sabrina Champenois à l'occasion de la sortie du best-of de Camaro. You can read it dans Libération.
Oh, on va le lire.
Et là, il y a Abnous qui dit « Je connaissais pas du tout hein ». Mais alors pas du tout. Pendant que Virginie Legay est en train de danser, regardez-nous sur RTL.fr, il se passe des choses en studio. Allez, stop Monsieur Marot. Que souhaitez-vous, qu'aimeriez-vous voir dans la presse de demain, vous ?
Une innovation française présentée au CES de Las Vegas. Vous savez, c'est le salon des nouvelles technologies qui s'ouvre demain. Alors imaginez que vous ayez tous devant vous comme des petites boules de cristal à la Madame Irma. Toutes ces petites boules seraient reliées à une grosse boule qu'on aurait mise là, sur la table du studio. Vous posez chacun les mains sur cette boule de cristal, et celle du milieu va vous indiquer l'ambiance qui règne dans la pièce. Rouge, grosse tension, bleu, harmonie. En gros, ceux qui écoutent Camaro et ceux qui ne l'écoutent pas.
Mais comment elle fait pour savoir la
position
de boule ?
Alors, comment elle fait pour savoir ? Ben, elle détecte le rythme de votre poule, votre rythme cardiaque. Qu'est-ce qui se passe quand l'ambiance est bonne ? Eh bien, on s'accorde tout tous plus ou moins quand l'autorité est consentie, quand on se fait confiance, quand on cherche à se séduire, on bat au même rythme. Donc, c'est un formidable moyen éducatif, mais c'est aussi un nouvel instrument pour les entreprises, pour créer une équipe ou pour les stimuler. La start-up qu'il a inventée s'appelle Hulot World, elle est bordelaise, un joli franglais pour une découverte bien française.
Mais sinon, on peut aussi se regarder, oui, s'écouter. Les mecs qui vont au CES à Los Angeles pour inventer des trucs à la noix comme ça, mais c'est incroyable.
Mais c'est une preuve, vous voyez.
Ah ouais.
Et ça permet aussi de s'accorder, c'est-à-dire on peut faire le truc dans l'autre sens. Si on n'est pas accordé, si c'est toxique par exemple, eh bien on peut, à travers la boule, accorder son rythme cardiaque.
Et puis on a que des petites boules rouges devant nous.
Mais ça s'appelle des micros, Patrick. Vous débutez dans la profession, c'est normal.
Des micros.
Bon, moi, j'ai pas besoin d'une boule de cristal pour montrer à Jacques Pradel que je l'aime. Regardez, ça se voit, ça s'entend. Bonjour, mon cher Jacques, bonsoir. Oui.
Bonjour, Thomas.
Quel est le programme de l'heure du crime dans un instant?
Eh bien, une question ce soir qui fait polémique dans l'heure du crime. L'hypnose pourrait-elle être utilisée par la justice pour aider la vérité à se manifester? Cécile Bourgeon, la mère de la petite Fiona, est persuadée qu'elle pourrait, sous hypnose, se souvenir de l'endroit où elle a enterré le corps de sa fille. Et nous allons parler de cela, et avec des spécialistes de l'hypnose, évidemment.
Sujet passionnant à suivre dans l'heure du crime, c'est juste après le journal de 20h. Merci à tous d'être venus ce soir, et à tout de suite. Bonsoir.